bonjour. Alors moi j'avais une question par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'éthique appliquée, c'est-à-dire finalement la laïcité dans les grands principes, et moi j'aurais effectivement tendance aussi à être dans la laïcité plutôt inclusiviste, mais les critiques que l'on me fait souvent par rapport à cette posture, c'est que c'est une posture naïve. Et que dans la réalité, quand on va dans l'application concrète, on se heurte à un certain nombre de difficultés. Alors j'en cite deux qui reviennent souvent. La première qui serait de dire, mais c'est accordé finalement beaucoup de droits, entre guillemets, de liberté, à des personnes qui ne les accorderaient pas elles-mêmes aux autres. La deuxième, c'est plutôt de poser... l'idée qu'il y a une forme de pression sociale qui dépasse finalement une posture purement juridique ou purement politique de la question de la laïcité et qui induirait de considérer par exemple le port du voile comme devenant la norme dans une population musulmane et qui est du coup le contraire de la liberté que voudrait la laïcité. Je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez.
C'est deux questions différentes. D'accord, bon, ça déjà c'est bien. Pour répondre à la première, la naïveté, ouais, enfin, non, je dis pas la naïveté, je dis oui, bien sûr, on est bien obligé de... Enfin, je veux dire, on est bien obligé, démocratiquement parlant, de reconnaître les libertés à ceux qui... à ceux qui nous la dénieraient. Ou qui aurait tendance à nous la dénier. Je veux dire, c'est c'est à la fois la force et la fragilité des États démocratiques. Oui, moi je ne me reconnais pas du tout dans le pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et qui décide qui est un ennemi de la liberté ou non? Après, il y a ça n'empêche pas d'interdire un certain nombre de choses qui sont évidemment pour n'importe quel individu contraires à la liberté des autres. Voilà, et on juge là-dessus. Enfin, là, on a un arsenal juridique qui permet de... Ça n'empêche pas du tout le juridisme, à mon avis. Ça, absolument pas. Ou le juridisme, encore l'expression est peut-être trop péjorative, mais l'approche juridique de la question. On pourrait rester très juridique en disant, ben oui, de même, c'est pas parce qu'on autoriserait des comportements religieux dans les établissements scolaires qu'on autoriserait tout. Ben, je veux dire, il y a évidemment des choses interdites. Mais parce que c'est l'ordre public qui est en cause ou la liberté des autres, c'est-à-dire parce que c'est encore le même principe qui est à l'œuvre, qui justifie d'interdire. Ces pressions, elles existent. Alors la question, c'est qu'est-ce que le droit peut contre les pressions sociales? Et évidemment, il peut un peu, quelle que soit la pression sociale, mais pas seulement la pression sociale des familles qui imposent de mettre le voile à une jeune fille. Ou qui la marierait de force, par exemple, même la pression sociale qui peut exister dans n'importe quel milieu, de parents sur des enfants, par exemple, d'un groupe social, on ne peut se fonder. Le problème, là encore, c'est la question de l'interprétation. On ne peut se fonder que sur des éléments qui, d'une certaine façon, relativement au droit, peuvent paraître objectifs. C'est-à-dire que si une jeune fille vient se plaindre de ce qu'on lui oblige à porter un foulard et qu'elle ne veut pas, effectivement, le droit, et pas simplement le droit, mais enfin, tout l'arsenal, juridique et policier, doit pouvoir la protéger. C'est normal de protéger une liberté. Dès l'instant qu'elle ne le fait pas, s'il est très très difficile, alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne subit pas la pression sociale, qu'elle ne le fasse pas. Mais évidemment, ça rend. Alors, la question là, c'est qu'est-ce qui est plus coûteux? C'est d'aller, de faire une espèce de procès d'intention, de sonder les reins et les cœurs. Qu'est-ce qui est plus coûteux du point de vue démocratique? Ou de dire bon ben tant que si elle se plaint pas, on ne peut rien faire. C'est une vraie question, et j'ai tendance, c'est peut-être choquant ce que je vais dire, à penser que vouloir sonder les reins et les cœurs est plus coûteux, démocratiquement parlant, que l'autre solution. Parce que les conséquences politiques d'un État qui essaierait d'être d'une certaine façon une police des familles, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes par rapport à disons à l'idée que je me fais d'une démocratie. Alors effectivement, le problème, c'est que dans une démocratie qui reconnaît le droit d'expression des individus, on ne sait jamais si les individus s'expriment sous pression ou pas sous pression. Et qui peut d'ailleurs prétendre que personne ne s'exprime sous pression, quoi. C'est au fond aussi au nom de cet argument que les partis politiques, et surtout les partis politiques se réclamant de la laïcité, ont pendant si longtemps en France refusé le droit de vote aux femmes. Faut jamais oublier ça. Il faut jamais oublier que c'est les radicaux socialistes, c'est-à-dire ceux qui ont porté l'idéal laïque, qui ont été le plus hostiles au vote féminin en France. Parce que voter le vote féminin, c'était voter pour le curé. Voilà. Oui, mais il va y avoir des pressions. Oui, c'est le même argument. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je veux aussi répondre à la question de Stéphane. C'est sûr que dans les programmes d'enseignement moral et civique, comme vous dites, bon, j'ai été le coordonnateur du groupe qui a proposé une rédaction des programmes. Après, c'est pas moi qui les ai signés, hein, les programmes, et ils ont connu leur propre histoire. Enfin, dans l'idée, on va retrouver quand même le travail du groupe. On s'est trouvé devant ce problème-là. Et c'est vrai que l'enseignement moral et civique qui est proposé est à bien des égards, alors je veux pas dire un enseignement procédural, mais au moins délibératif, qui insiste beaucoup sur la question de la délibération morale, de la discussion, de la justification des préférences éthiques ou des préférences civiques par les élèves, de la possibilité d'échanger entre eux, etc. C'est une part très importante du programme. Cela dit, pour la raison au fond que j'énonçais un petit peu à la fin, un pur procéduralisme est impossible. On a assumé aussi des éléments un peu plus traditionnels, perfectionnistes, la valeur de l'intérêt général sur l'intérêt privé, la valeur de l'engagement. Il y a des aspects comme on peut pas être purement procéduraliste en matière d'éducation morale. Mais par ailleurs, c'est vrai aussi que la question de la laïcité dans l'enseignement moral et civique tel qu'on l'a conçu c'est pas un concept organisateur, la laïcité dans notre enseignement. Payon au début parlait de morale laïque. Après, il y a eu un rapport qui est parlé d'enseignement laïque de la morale, qui n'était pas tout à fait la même chose qu'enseignement de la morale laïque, qui était même très très différent. Puis après, il y a eu l'EMC, l'enseignement moral et civique, où il n'y a même pas le mot laïcité. Alors la laïcité est un contenu de cet enseignement, notamment dans le domaine civique. On voit ce que c'est que la laïcité, quel est son sens, quelle est sa valeur en regard d'une société démocratique. Évidemment, c'est une partie importante du programme, mais ce n'est qu'une partie importante. Ça n'est qu'une partie du programme. C'est pas ce qui le structure. Alors après, il y a eu Charlie, il y a eu les valeurs de la République, et il y a eu toute une série de choses qui ont recouvert un peu les intentions et qui font croire que ce programme, au fond, est une manière de répondre à Charlie, ce qui est absolument faux, évidemment, parce qu'il a commencé, il a été rédigé avant les attentats de... En tout cas, pour le collège et l'école élémentaire. Pour le lycée, on n'a pas changé grand-chose par rapport à ce qui existe. Voilà. Mais il y a une dimension délibérative ou procédurale, si on veut, assez importante dans ce programme-là, oui. Et sans doute, d'ailleurs, ça le fragilise parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est plus facile de dire voilà ce qu'il faut faire, c'est certain. Et c'est compliqué à mettre en œuvre et ça suppose une question de formation, comme disait là mais la question de la formation pose un autre problème, là, moi, je ne veux même pas en parler.
Ma question, en fait, elle était justement en lien direct avec les programmes de EMC, parce qu'en fait, j'étais très surpris d'entendre que vous avez participé à la rédaction, parce que du coup, j'avais l'impression que pendant tout votre exposé, j'avais l'impression que vous me donniez des arguments pour être pas en opposition, mais en tout cas sur ou qui allaient à l'encontre de ce que je ressentais être l'EMC. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez fait la distinction entre ce qui est bien. Et entre le bien, la vie bonne et le juste. Et j'avais l'impression que du coup, l'EMC justement dépassait l'éducation civique, où j'ai l'impression qu'en éducation civique, on enseignait ce qui était juste, les institutions, les droits de l'homme, la laïcité, et qu'on ajoutait derrière, avec cette idée de morale, la notion de bien. Et là, moi, ça me posait problème parce que je me disais justement neutralité de l'enseignant. Je suis pas là pour dire ce que c'est qu'une vie bonne, etc. Donc, enfin, voilà, je serais curieux de savoir.
Oui, mais non, mais là, je comprends la question, mais si vous lisez attentivement les programmes, qui dans leur rédaction finale ont quelque ambiguïté, je reconnais, mais enfin malgré tout, clairement, les programmes, me semble-t-il, disent assez nettement que non, enseigner la morale, oui, il y a une dimension proprement morale de cet enseignement, c'est pas que du civique, hein, mais cet enseignement moral n'est pas là, enfin c'est pas un enseignement que les philosophes appellent trop perfectionniste, c'est-à-dire proposer un idéal moral, enfin être un bon père, un bon citoyen, un bon fils, un bon époux, une bonne épouse, etc., etc. C'est encore une fois, j'insiste, c'est une éducation à la sensibilité morale, c'est-à-dire un rapport à l'autre, hein. C'est une éducation du jugement moral, il y a tout un chapitre sur le jugement moral, où il s'agit, hein, essentiellement de proposer un travail sur comment des élèves peuvent énoncer des préférences morales, des choix moraux sur des problèmes, et comment ils peuvent justifier ces choix, comment ils peuvent argumenter sur ces choix devant d'autres élèves en classe qui auraient eux-mêmes d'autres choix, etc., sans que l'on dise voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. C'est-à-dire c'est ce que j'appelle une morale délibérative, hein. Et la référence, si vous voulez, théorique implicite était plus du côté, par exemple, de la philosophie d'Habermas, ce qu'on appelle l'éthique de la discussion, que d'une, c'est-à-dire quelque chose quand même d'assez procéduraliste, hein, ou sur le modèle de ce qui se fait ailleurs, notamment dans les cours d'éthique en Belgique, où on insiste bien là-dessus, sur des avec des dispositifs en plus pédagogiques comme le débat réglé, les dilemmes moraux, les jeux de rôle, où il s'agit précisément de pour des élèves de comment dirais-je, de s'approprier, si je puis dire, la rationalité particulière de la vie morale et de prendre conscience, au fond, de ce qu'elle implique en termes de choix personnels et de réflexion personnelle et de délibération personnelle. Donc on est bien dans un cadre pur, vraiment pluraliste d'une certaine façon, et pas du tout dans l'idée d'une transmission du bien, jusqu'à un certain point, parce que jusqu'à un certain point, à un moment donné, il faut quand même bien dire à l'école, il vaut mieux travailler que pas travailler, il vaut mieux faire des efforts que pas faire des efforts, hein, il vaut mieux être attentif que pas être attentif, etc. Donc on n'échappe pas, mais dès l'instant qu'on a des enfants, on n'échappe pas à une théorie du bien minimum, mais avec quand même la conscience de la part du groupe que cette théorie du bien doit être minimum, que c'est celle dont on ne peut pas faire l'économie, et qu'il est beaucoup plus important. En revanche, la nouveauté du programme, c'est l'insistance sur les aspects délibératifs ou procéduraux de cet enseignement, y compris moral, pas simplement civil.
Je prends un texte qui est sur Eduscol concernant l'enseignement moral et civique. Je voudrais le lire et savoir si vous en êtes l'auteur, parce que si vous en êtes l'auteur, votre réponse sera d'autant plus intéressante. C'est le dernier paragraphe. Un principe guide l'apprentissage de la laïcité comme contenu d'enseignement. Deux points. Une approche conceptuelle n'est pas souhaitable. Virgule. La laïcité étant un concept trop abstrait et trop difficile pour les élèves, notamment les plus jeunes. Notamment, hein. C'est simplement notamment. Un support concret est toujours préférable. Voilà.
Donc. Alors, je ne suis absolument pas l'auteur de ce texte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce texte? Oui, c'est,
hein. Je sens que. Écoutez, il est très mauvais.
Ah, oui.
Je pense que si on part sur le fait que la laïcité est un concept trop abstrait pour l'enseigner aux élèves, par exemple en classe de philosophie en terminale.
Alors je pense pas que le texte parlait de la classe de philosophie de la terminale. Je pense qu'il parlait plus peut-être de l'école élémentaire.
Notamment les plus jeunes.
Notamment les plus jeunes, oui. Sachant que parce que l'enseignement moral et civique, ça commence en CP, hein. Donc je pense effectivement qu'il vaut mieux. Mais pour moi, ça pose un autre problème au fond. Ce texte, enfin, c'est peut-être d'ailleurs le problème que ça me pose à moi, le texte que vous citez, et donc encore une fois, je suis pas l'auteur. C'est qu'est-ce que ça veut dire apprendre la laïcité. Et c'est toujours la question de savoir si la laïcité c'est un cadre ou si c'est une valeur. Je pense que ce qui convient d'apprendre avec des élèves très jeunes, c'est effectivement quelque chose qui relève de qu'est-ce que c'est que la recherche de l'argumentation, la recherche de la discussion avec d'autres, le rapport à des opinions qui sont pas les mêmes, les efforts que chacun doit faire pour pouvoir formuler des opinions dans un langage qui soit audible aux autres, etc. Tout ça se fait effectivement très très progressivement. Bref, la libre discussion, la libre recherche de la vérité ou de consensus, etc. L'école doit effectivement apprendre ça. Alors, est-ce qu'elle apprend la laïcité ? Oui, en un sens, mais elle n'a pas besoin de nommer que c'est la laïcité. La laïcité, c'est le cadre qui permet ça. C'est pas ma position. Alors là, qui serait certainement pas celle du ministère, on va dire. Hein, c'est que la laïcité est moins ce qui doit s'apprendre à l'école, sauf effectivement en termes strictement notionnels, à des classes plus grandes, c'est qu'une institution laïque, la séparation de l'Église et de l'État, etc., etc. Hein, la laïcité, mais sans ça, c'est moins ce qui doit s'apprendre que ce qui doit permettre d'apprendre un certain nombre de choses. C'est voilà. Si on veut éviter un enseignement un peu, enfin, qui tombe dans la moralisation, dans l'exhortation, dans l'édification, dans ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Fais ci, fais pas ça. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, et c'est comme ça qu'on a essayé de les prendre. Lorsqu'on a rédigé ce programme, je suis pas du tout certain que c'est comme ça forcément que l'on comprit le ministère au bout du compte, voire le Conseil supérieur des programmes sous l'autorité duquel j'ai travaillé. Et ce qui explique, mais voilà, mais moi le texte lui-même ne me choque pas particulièrement. C'est vrai qu'avec avec des élèves de CE1 ou CE2, on va pas leur expliquer abstraitement ce qu'est la laïcité. Ça. Hein. En revanche, on peut essayer de mettre en œuvre un certain nombre de procédures qui supposent la laïcité et qui commencent déjà une formation intellectuelle, morale et civique intéressante avec eux.
On va prendre une dernière question, puis après, il faut vraiment qu'on
passe. Concernant ces deux conceptions de la laïcité, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elles se retrouvent aussi au niveau des conceptions éducatives ? Par exemple, la première conception que vous avez citée, finalement, c'est celle des instructeurs, dit entre guillemets, sans esprit péjoratif, ceux qui souhaitent effectivement une transmission des savoirs disciplinaires d'une manière très formalisée. Et de l'autre côté, on peut dire qu'effectivement, il y a un courant pédagogique, celle des éducateurs, voilà, qui se retrouve effectivement dans la réforme des programmes et aussi donc dans la réforme des collèges. Et donc ce dissensus qu'on a pu voir dans l'actualité de la réforme des collèges entre justement la question disciplinaire, la question des savoirs à transmettre hein, et à préserver, et d'autre part la question des compétences, etc., de la construction des compétences, est-ce que ce dissensus n'est pas à être levé ? Est-ce qu'il n'y a pas une complémentarité, bien entendu, entre ces deux conceptions, à la fois laïque et éducative ? Voilà, ça c'est une question que je souhaitais vous poser. Et deuxième question, est-ce qu'on ne va pas vers une troisième conception de la laïcité en articulation avec la diversité culturelle, hein, la question du culturel, parce que la laïcité, c'est ce cadre général, d'accord, bien entendu, républicain, très important. Mais il ne faut pas que le débat soit verrouillé au niveau de la question culturelle. La laïcité n'a pas à, comment dirais-je, à légiférer sur les questions intercommunautaires hein, ou au niveau de la citoyenneté en excluant le culturel qui n'est pas religieux. Or, ce pan-là du culturel est quand même très important. Hein, ce sont les cultures régionales, ce sont bien sûr les cultures de l'immigration, ainsi de suite, les cultures de genre et autres. Hein. Et donc, est-ce que la société civile, les médias, le cinéma, les arts ne vont pas justement vers cette conception laïque, bon, ouverte, intégrative, inclusive, qui partent de l'altérité et qui sortent finalement d'un individualisme atomisant, parce que la société française, comme vous le savez, bien entendu qu'elle a cultivé la citoyenneté individuelle, cette société des individus, nous c'est un bénéfice, mais l'individualisme atomisant est à nos portes. hein, et les élèves, eux, s'ils manquent de ces repères culturels, communautaires, eh bien, comment vont-ils arriver à se construire seuls? Est-ce que la relation pédagogique, le dialogue argumenté suffira à les aider à construire des repères qui sont ceux de leur famille, de leur milieu, etc.
Alors, honnêtement, à la deuxième partie de votre question, je ne sais pas comment répondre. Je pense que vous énoncez un problème qui est très épineux, qui est très très compliqué. De quelle façon au fond l'école doit tenir compte de la diversité et qui est pas simplement la diversité effectivement religieuse, qui est aussi une diversité culturelle au sens plus large. C'est une question qui dont j'ai bien conscience qu'elle se pose, mais qui dépasse mes capacités de réponse. Donc je vais pas essayer de m'échapper là. Je sais pas quoi répondre. Pour la première partie de la votre question, oui, je crois que en très grande partie, l'opposition éducation-instruction, pour dire les choses brièvement, recoupe l'opposition entre les deux conceptions de la laïcité que j'ai. Alors, ce qui serait intéressant de se demander, c'est si c'est un recoupement de fait, parce que bon, ou s'il y a une logique interne qui préside vraiment à ce recoupement. C'est pas sûr, d'une certaine façon. C'est pas sûr, et je voudrais pas que non plus la conception que j'ai défendue soit assimilée aussi sur le plan pédagogique à une position, disons, pédago, et on fait de la pâte à crêpes plutôt dans les centres de formation plutôt que d'enseigner aux enfants, aux futurs enseignants comment enseigner les maths, le français, etc., etc. Je crois que la position, disons, éducationniste, effectivement, peut être exprimée de façon très, très rigoureuse elle-même sur un plan conceptuel. Mais en tout cas, je constate que, effectivement, les mêmes qui ont défendu la laïcité dans un sens, disons, néo-républicain, ont été en général des contempteurs des orientations pédagogistes ou éducationnistes, pour eux complètement délétères de l'école française. Alors là, effectivement, on retrouve, hein, pour finir comme on a commencé, Finkielkraut, voilà, qui est exemplaire de cette... là, je crois qu'il y a un recoupement. Mais il faudrait s'interroger de savoir si ce recoupement est de fait ou de droit, d'une certaine façon. Et ça, c'est une question intéressante en soi, mais je ne peux pas vous redonner une réponse comme ça, sauf un sentiment.